Chapitre 45. Vendredi 18 décembre, le matin. Éric dévale l'escalier qui mène au foyer. Il se fraye un passage à travers un groupe de jeunes avec des fleurs et dépasse un vieil homme en fauteuil roulant. Les tapis mouillés clapotent sous ses pieds quand il pousse les portes de la sortie principale. Il se précipite en bas de l'escalier en pierre sans se préoccuper des flaques d'eau ni de la neige fondue, passe devant un bus, traverse la rue en courant et franchit les petits buissons qui délimitent le parking visiteur. Il a déjà la clé dans la main tandis qu'il fonce vers sa voiture le long des véhicules sales. Il l'ouvre, s'assoit, démarre et recule si violemment que l'aile de sa voiture racle le pare-choc de l'automobile voisine. La respiration encore rapide, il roule le plus vite possible, mais ralentit à l'approche de l'école Edberg. Il passe lentement, sort son téléphone et appelle Yona.
« C'est Lydia Evers !» lui crie-t-il presque.
« Qui ?»«
Lydia Evers a enlevé Benjamin !» poursuit-il gravement. « Je vous en ai parlé. C'est elle qui avait porté plainte contre moi. »«
On va la chercher dans le système, »
dit Yona. « Je suis déjà en route. »«
Donnez-moi une adresse. » »«
Une maison dans la rue Tenniswegen à Rotebro. Je ne me souviens pas du numéro, mais la maison est rouge et assez grande. »«
Attendez-moi quelque part dans... »«
J'y vais directement. »«
Ne faites rien d'inconsidéré, vous entendez ?»«
Benjamin va mourir s'il n'a pas ses médicaments. »«
Attendez-moi !»
Éric coupe la communication et accélère de nouveau. Il sent son pouls battre dans ses tempes quand il prend la direction du supermarché Coop Forum. Il trouve son chemin dans la zone résidentielle, se gare contre la même haie de sapin que 10 ans plus tôt, lorsqu'avec l'assistante sociale, ils avaient rendu visite à Lydia. En regardant la maison depuis la voiture, il ressent presque sa propre présence 10 ans auparavant. Il se souvient qu'il n'avait pas vu de signe attestant la présence d'un enfant. Aucun jouet dans le jardin, rien qui indiquât que Lydia soit une mère. D'un autre côté, ils avaient à peine eu le temps de faire le tour de la maison. Ils avaient simplement descendu l'escalier vers la cave, puis étaient remontés. Puis Lydia s'était précipitée sur lui avec un couteau à la main. Il se souvient de son regard quand elle avait tiré la lame sur son cou sans le lâcher des yeux. L'endroit n'a pas beaucoup changé. La pizzeria a été remplacée par un bar à sushi et les trampolines couvertes d'un mélange de feuilles d'automne et de neige sont alignées dans presque tous les jardins. Éric laisse la clé sur le contact, sort de la voiture et grimpe la pente en courant. De la neige mouillée parsème l'herbe haute. Il avance d'un pas rapide, ouvre la barrière et traverse le jardin. Des stalactites scintillent sous la gouttière délabrée. Des plantes mortes vacillent dans leur jardinière suspendue. Éric tire la porte et sent qu'elle est fermée. Il regarde sous le paillasson. Quelques cloportes se sauvent du rectangle humide sur le perron en béton. Son cœur bat la chamade. Éric tâtonne sous la rampe en bois mais ne trouve pas de clé. Il contourne la maison, prend une pierre de la plate-bande et la balance contre la porte vitrée de la véranda. Le verre se fend et la pierre retombe dans l'herbe avec un bruit sourd. Il la ramasse et la rejette plus fort. Toute la vitre éclate. Éric se précipite, ouvre la porte et pénètre dans une chambre au mur recouvert de tableaux d'anges et du gourou indien Sai Baba.
« Benjamin !» crie-t-il. « Benjamin !»
Il crie le nom de son fils, mais il voit que la maison est abandonnée. Tout est obscur, immobile, ça sent le renfermé, les vieux tissus et la poussière. Il se hâte en direction du vestibule et ouvre la porte de l'escalier menant à la cave. Une atroce puanteur le submerge. Une forte odeur de cendres, de bois carbonisé et de caoutchouc brûlé. Il dévale l'escalier, trébuche sur une marche, se heurte l'épaule contre le mur et retrouve l'équilibre. Les lampes ne fonctionnent pas, mais à la lumière des soupiraux, il voit que le salon du sous-sol a été ravagé par le feu. Le sol craque sous ses pieds. La majeure partie des meubles est noire, mais certains semblent encore intacts. La table en carreau est juste un peu noire de suie, tandis que les bougies parfumées sur le plateau ont fondu. Éric trouve le chemin jusqu'à la porte qui conduit à la pièce voisine. Il y a du jeu dans les gonds et l'intérieur de la porte est complètement carbonisé.
« Benjamin !»
dit-il d'une voix terrifiée. De la suie tourbillonne sur son visage. Ses yeux le brûlent. Au milieu de la pièce se trouvent les restes de ce qui ressemble à une cage assez grande pour contenir un homme.
« Éric !»
crie quelqu'un d'en haut. Il s'arrête et tend l'oreille. Les murs craquent, des débris carbonisés tombent des plaques du plafond. Il avance lentement vers l'escalier. Des aboiements résonnent au loin.
Eric !
C'est la voix de Yona. Il est dans la maison. Eric remonte l'escalier. Yona le regarde, le visage inquiet.
Qu'est-ce qui s'est passé ?
La cave a brûlé, répond Eric.
Rien d'autre ?
Eric fait un geste vague en direction de la cave.
Les restes d'une cage.
J'ai un chien avec moi.
Yona court jusqu'au vestibule en bas du couloir et ouvre la porte. Il fait signe au maître chien en uniforme, une femme aux cheveux bruns réunis en une tresse serrée. Le labrador noir la suit au pas. Elle salue Eric d'un hochement de tête, leur demande d'attendre dehors, puis s'accroupit devant le chien et lui parle. Yona tente de faire sortir Eric, mais abandonne en voyant que c'est peine perdue. Le chien noir au pelage brillant se déplace avec frénésie à travers la maison, renifle énergiquement, respire vite, continue de flairer. L'animal explore systématiquement chacune des pièces. Eric reste dans le vestibule. Il se sent mal, éprouve soudain l'envie de vomir et sort de la maison. Deux policiers sont en train de discuter devant un minibus noir et blanc. Eric sort par la barrière, avance sur le trottoir en direction de sa voiture, s'arrête et sort la petite boîte avec le perroquet et l'aborigène. Il reste là, la boîte à la main. Puis, s'approche d'une bouche d'égout et verse le contenu entre les barreaux de la grille. Il a des sueurs froides sur le front, s'humecte les lèvres comme s'il voulait dire quelque chose après un long silence. Puis, il lâche la boîte et entend un floc lorsqu'elle tombe dans l'eau. Quand il revient dans le jardin, Yona attend devant la maison. Il rencontre le regard d'Eric et secoue la tête. Eric entre. Le maître chien est à genoux, en train de caresser le labrador sur le cou et derrière les oreilles.
Vous êtes allé dans la cave ? Demande Eric.
Évidemment, répond-elle sans le regarder.
Dans la pièce du fond ?
Oui.
Peut-être que le chien n'a pas de flair à cause de toute la cendre.
Rocky peut retrouver un cadavre sous l'eau à 20 mètres de profondeur, dit-elle.
Et des vivants ?
S'il y avait quelque chose ici, Rocky l'aurait trouvé.
Mais vous n'avez pas encore été dehors,
dit Yona qui vient d'entrer derrière Eric.
Je ne savais pas qu'il le fallait, dit le maître chien.
Il le faut, répond Yona brièvement.
Elle hausse les épaules et se relève.
Allez, viens,
dit-elle au labrador d'une voix grave et rugueuse.
On va voir dehors ?
Eric les suit en bas du perron et fait le tour de la maison. Le chien noir balaie rapidement l'herbe haute, renifle les abords du tonneau à eau, sur lesquels une opaque couche de glace s'est formée, puis cherche autour des vieux arbres fruitiers. Le ciel est sombre et trouble. Eric voit que le voisin a allumé des guirlandes électriques colorées dans un arbre. L'air est glacial. Les policiers sont allés s'installer dans le minibus. Yona reste à proximité de la femme et du chien et indique de temps à autre une direction. Eric les suit de l'autre côté de la maison. Soudain, il reconnaît le tertre au fond du jardin. « C'est l'endroit de la photo, » se dit-il. « La photo qu'Aïda a envoyée à Benjamin avant sa disparition. » Eric respire lourdement. Le chien renifle autour du compost, va jusqu'au tertre, renifle autour, halète, en fait le tour, flaire les petits buissons et de l'autre côté de la clôture brune, revient, se précipite sur un panier à feuilles avant d'explorer un jardinet de fines herbes. De petits bâtons avec des sachets de graines indiquent ce qui a été planté dans chaque rangée. Le labrador noir gémit nerveusement, puis s'allonge au milieu des plantations, à plat ventre sur la terre humide ameublie. Le corps du chien tremble d'excitation. Sa maîtresse le complimente d'un air triste. Yona fait volte-face et court bloquer le passage à Eric. Il ne le laisse pas s'approcher du champ. Eric n'a aucune idée de ce qu'il crie, de ce qu'il tente de faire, mais Yona arrive à le reconduire hors du jardin.
« Il faut que je sache !» dit Eric d'une voix tremblante.
Yona hoche la tête et dit doucement
« Le chien a indiqué qu'il y a un cadavre humain dans la terre. »
Eric s'effondre sur le trottoir contre un coffret électrique. Ses pieds, ses jambes disparaissent sous son corps. Il voit les policiers sortir du minibus armés de pelles, puis il ferme les yeux.
Eric Maria Bark attend, seul, dans la voiture de Jonalina, et contemple la rue Tenniswegen. Les noires cimes des arbres reçoivent la lumière des réverbères suspendus, des branches noires effilées contre un ténébreux ciel d'hiver. Sa bouche est sèche, des douleurs le lancent au visage et à la tête. Il chuchote quelque chose pour lui-même, puis sort de la voiture, enjambe les rubans délimitant la zone et fait le tour de la maison dans l'herbe haute, couverte de givre. Yona observe les hommes en uniforme avec leurs pelles. Ils travaillent dans un silence taciturne, avec des mouvements presque mécaniques. Tout le petit champ est retourné. Ce n'est plus qu'un grand trou rectangulaire. Des lambeaux de vêtements terreux et des bouts d'os ont été déposés sur une toile en plastique. Le bruit des pelles continue. Le métal cogne contre une pierre. Les coups de pelle cessent et les policiers se redressent. Eric s'approche lentement, le pas lourd et réticent. Il voit Yona se retourner et un sourire se dessiner sur son visage fatigué.
« Qu'est-ce qu'il y a ?» chuchote Eric.
Yona vient à sa rencontre, regarde Eric dans les yeux et dit
« Ce n'est pas Benjamin. »
« Qui est-ce ? »
« Le corps est là depuis au moins 10 ans. »
« Un enfant ?»«
De 5 ans peut-être. »
Des frissons parcourent le dos de Yona.
« Lydia a donc bien eu un fils, » dit Eric d'une voix sombre.